Laboratoire, centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Lauréat, mot magique et tragique à la fois pour toute une génération de jeunes étudiants, appelés chaque année à répondre de leur capacité devant de sévères aéropages. Aujourd'hui, 1er octobre 1947, 200 jeunes cœurs ont battu en pénétrant dans la salle Xel, rue Michelet, Alger. 200 jeunes gens et jeunes filles se sont présentés en effet ce matin devant les feuilles blanches qui marqueront leur destin pour la session d'octobre du baccalauréat.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Est-ce vraiment, comme aiment à le dire certains, une névrose nationale, le baccalauréat? Dès qu'un gouvernement annonce qu'il va y toucher, comme le fait le nôtre aujourd'hui, bondit aux premières pages des journaux et son destin passionne les Français dans tous les foyers. L'étranger, qui connaît rarement le même système uniformisé, ne manque pas de s'en étonner et de nous rappeler par là qu'il pourrait bien s'agir d'un fait de société, selon l'expression courante, qui nous serait propre. Si l'on admet cela, il reste à rassembler les données historiques qui aident à comprendre ce fait, à éclairer dans le long terme la jeunesse des déterminations qui le fondent et des querelles qu'il suscite. Ce sera pour constater qu'en dépit des profondes évolutions de notre nation et conséquemment du bac, comme on dit par apocope, les interrogations qui l'entourent, au moins depuis la Révolution et l'Empire, ont connu des rebonds qui exigent d'être considérés. À propos de son efficacité, de ses fréquentes lourdeurs et surtout de ses conséquences sur les destinées individuelles et collectives des hommes et des femmes de notre pays. Olivier Loube, mon invité, est professeur de Cagnes au lycée Saint-Sernin de Toulouse et spécialiste reconnu de l'histoire de l'enseignement, de son histoire tout à la fois culturelle, sociale et politique. Autrement dit, de toutes les dimensions du baccalauréat.
Paul dans sa famille a vécu longtemps sans souci. Sa mère était si gentille, son père aussi, Dieu merci. Heureux comme un coq en pâte, il atteignit l'âge ingrat. C'est là, sous sa garde, l'âge du baccalauréat. Ce jour-là, les messieurs noirs l'entourent effrayants à voir. On lui dit qu'un air sévère,
qu'avez-vous à déclarer?
Dévalez-nous votre affaire
et veuillez nous éclairer.
Déclarez-nous sans embâche pour ne pas rater pas chaud ce qu'il y a dans votre bagage et servez-nous ça tout chaud.
Quel est le nom des neuf muses? Parlez-nous de l'hypoténuse.
Du carré n'a pas d'excuse, ce sont des sujets tout cuits.
Que fut la triple alliance? Comparez Plot et Terence.
Définissez l'existence puis l'essence et ce qui s'ensuit.
Montrez les progrès de la guerre en allant du lance-pierre à l'énergie nucléaire.
Bon, ça va, voyons Pascal, que savez-vous de son vide?
D'où nous vient l'huile d'arachide?
Mais si des anthroboïdes du genre concavoïdal.
Parlez-nous de ces archives.
De l'emploi du point virgule.
Quel est le rôle du pédoncule?
Déclarez-nous rapidement pourquoi la brique réfractaire du point de vue alimentaire c'est mieux que la pomme de terre dans le système des Allemands.
Quel fut entre parenthèses le rôle de la catacrèse dans la poésie portugaise?
Le recul au sablier.
Vite, c'est votre dernière chance d'éballer vos connaissances car demain, comme nous, je pense, vous aurez tout oublié.
On a vos cartes sur table sans vous laisser égarer sur ces sujets remarquables qu'avez-vous à déclarer?
Olivier Loup, bonjour.
Bonjour, cher Jean-Noël Jeannet.
C'était un extrait des Frères Jacques, 1955. Qu'avez-vous à déclarer? Une vision peut-être légèrement caricaturale du bac, une sorte de désordre organisé. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bagage?
Eh bien, je trouve que le langage employé est remarquablement intéressant puisque on est chez des douaniers quasiment. Et pour parler de barrières de niveau à propos du baccalauréat, on ne saurait mieux tomber que d'avoir cette invitation à déclarer quelque chose et à vider son sac, à donner son bagage et son contenu.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en somme, le baccalauréat, à toutes les époques, apparaît comme une sorte de miroir de la culture dominante, avec des hiérarchies qui sont installées entre les différents champs disciplinaires au profit parfois des lettres ou des mathématiques, des sciences exactes. Débat entre l'oral et l'écrit, comme aujourd'hui, comme cette semaine, le reflet d'une société commandée formellement longtemps par les hommes et organisée longtemps en vue de la perpétuation de la domination masculine. Autrement dit, serez-vous d'accord avec moi pour dire que le bachot, notre génération a dit le bachot, entre bac et baccalauréat, que le bachot a beaucoup à nous apprendre au-delà de lui-même?
Oui, il nous apprend ce que nous voulons mettre en place comme niveau, justement, pour reconnaître l'appartenance. Alors, au départ, à un groupe restreint, qui est celui de la bourgeoisie, au tout départ, c'est l'idée. Et celui qui va former les cadres, hein, l'idée de Napoléon est là, tout entière, dans ce niveau exigible. Et puis, de nos jours, ce que nous considérons comme étant le socle commun des connaissances qui permettent de valider un enseignement, en même temps que de permettre la poursuite d'études. Oui, il remplace le certificat d'études primaires de nos jours comme étant un sanctificat, mais dès le départ, il nous permet de comprendre ce que voulait la société pour se tendre en miroir, effectivement. Oui.
Longtemps donc une barrière, vous citez le livre fameux de Gobelot, La barrière et le niveau, et maintenant, nous dit-on, et peut-être est-ce vrai, nous allons en parler, un outil de démocratisation.
C'est l'évolution majeure entre le début, sa création en 1908, et ce que nous constatons, c'est le fait qu'au départ, c'est un outil de distinction et de révélation, ou plutôt de sélection de ce que seront les cadres pour l'Empire, puis par la suite pour les monarchies qui se succèdent, jusqu'à la République elle-même, alors que de nos jours, à partir de l'entre-deux-guerres, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu au contraire un outil de démocratisation sociale. De la distinction à la démocratisation, c'est cela l'histoire du baccalauréat.
Et dans chaque cas, il y a mise en cause, il y a débat autour de l'efficacité de cet outil servant la première finalité ou servant la seconde.
Oui, le plus drôle, c'est que certains débats sont très anciens. Par-delà ce changement de nature qui est profond, hein, qui est même décisif, de la distinction à la démocratisation, ça n'est pas rien. Eh bien, nous avons les mêmes questions qui se posent. Sur son contenu, doit-on ou non renforcer le latin? Doit-on en faire l'élément central? Doit-on ou non examiner par l'oral ou par l'écrit? Que faire des sciences? Qu'est-ce qui est moderne? Qu'est-ce qui est classique? Qu'est-ce qui doit être technique? Qu'est-ce qui peut être professionnel? Voilà, ça sont des questions qui datent du 19e siècle y compris.
Eh bien, nous allons voir tout cela de plus près, Olivier Loube. Mais d'abord, rappelez-nous quelle est l'origine du mot baccalauréat. Donc, je disais que devenu bac, c'est une apocope. Il y a aussi le diminutif qui est bachot.
Le bachot baccalauréat, c'est une institution médiévale qui est en fait une institution universitaire. De fait, le baccalauréat est d'abord, et il est resté dans les pays anglo-saxons, mais pas que, mais surtout dans les pays anglo-saxons, comme étant une distinction interne, ou plus exactement, un diplôme interne à l'enseignement supérieur. C'était le cas au Moyen-Âge.
Baccalauréat, ça veut dire la baie au laurier. La couronne de laurier, c'est le symbole de la victoire.
Oui, et puis à pouvoir et à obtenir son baccalauréat signifiait au milieu des études universitaires la possibilité de continuer pour aller plus haut, pour aller plus loin. Tout change, bien entendu, avec, à l'époque moderne, ce que les jésuites font comme concurrence à l'université. C'est eux qui vont concurrencer, effectivement, pour les élites de l'époque, qui vont plutôt dans ces collèges de jésuites, concurrencer l'université qui sera cornie, qui se replie sur elle-même et qui va perdre, y compris cette sélection qui lui tenait tant à cœur, qui est celle des élites.
Vous courez un peu vite parce qu'il y a aussi le Moyen-Âge avec le mot de bachelier qui porte d'autres significations. Et d'ailleurs en anglais, bachelor, c'est pas la même chose. Pourquoi ?
Parce que bachelor en anglais peut porter deux sens. Il y a à la fois celui qui est un licencié de l'enseignement supérieur, mais il y a aussi le célibataire. Faut-il être célibataire endurci pour réussir ses études et devenir bachelier? C'est ce que tout bon chevalier devrait savoir. Mais
Nous laisserons, si vous voulez bien, cette incertitude dans l'esprit de nos auditeurs.
Oui.
Alors donc, jeune homme au Moyen-Âge, c'est un jeune homme qui n'a pas encore été armé chevalier. C'est un moment, c'est déjà un rituel de passage, comme on l'a dit parfois du bac aujourd'hui.
Absolument, ça c'est un trait commun depuis l'origine, c'est un moment de passage et donc un rite de passage. Le bachelier c'est celui qui n'est pas encore chevalier, le bachelier dans l'université médiévale c'est celui qui n'a pas complètement accompli ses grades, qui obtient donc un grade de passage, et ce grade de passage est aussi un rite avec tous les rituels qui s'y attachent et qui vont perdurer jusqu'à nos jours.
Donc vous avez bien marqué que l'université avait le monopole dégrade à partir de la Révolution.
Et de Napoléon Ier.
Et surtout de Napoléon Ier. C'est donc au professeur de faculté que va revenir la tâche d'examiner les candidats et de décerner le baccalauréat. C'est ce que souhaite l'empereur.
Oui, l'empereur a comme projet, en créant les lycées d'une part, mais en créant le monopole de la collation des grades, dont le premier est celui de bachelier, de contrôler ses élites et de créer pour son État, qu'il veut de plus en plus moderne, des cadres qui soient les meilleurs possibles. C'est son objectif. Il s'attaque à l'enseignement par le haut. Hein, il touche assez peu à ce qui est le primaire. En revanche, il s'intéresse de façon passionnée à ce qu'est la formation des élites, oui.
Les élites, il faut rappeler le pourcentage de ceux qui seront bacheliers. C'est un chiffre qui peut nous apparaître dérisoire. Moins de 1% d'une classe d'âge.
Bien moins, puisque la première génération, c'est 31. Donc ce n'est pas un chiffre relatif qu'il faut
31, employer. 31, oui, mais enfin, vous savez leur prénom par cœur?
Oui, mais je préfère le taire.
Quelle modestie. Donc, assez vite, le chiffre tout de même augmente quelque peu et le principe du baccalauréat va survivre à la chute de Napoléon.
Oui, il augmente quelque peu pour atteindre environ 7000 à la veille de la guerre de 1914. C'est une augmentation, elle n'est pas non plus spectaculaire. Et ça survit à la chute de Napoléon parce que les intentions qui présidaient à sa création se poursuivent.
Si on rappelle des chiffres, 1% d'une classe d'âge à la fin du 19e siècle, 3% à la fin de la Troisième République, 1939, et 10% en 1960, aujourd'hui à peu près 65%, pour donner une idée de l'expansion.
C'est ça, on passe de 1% à 2/3 de la classe d'âge hein, qui obtient son baccalauréat. Oui.
Alors pourquoi la Restauration maintient-elle cet héritage de l'Empire détesté ?
Eh bien parce que les problèmes qui avaient présidé à sa naissance sont toujours là et que le baccalauréat est toujours la solution à ces problèmes. Comment former une élite dans la nation et comment doter le pays d'un diplôme qui permette à ceux qui veulent continuer à l'université d'y aller ou qui permette d'être employable à des catégories de cadres et de cadres supérieurs dans fonction publique certes, mais pas uniquement.
Nous qui sommes attentifs, bien sûr, dans la réforme que nous propose le ministre Blanquer, qui sommes attentifs au contenu des études, il est intéressant de rappeler ce qu'était le contenu du baccalauréat vers 1840, quand le ministre Victor Cousin donne une place écrasante, n'est-ce pas, à la version latine ?
C'est en effet une nouveauté. Alors, toujours pour les historiens, il y a ce grand plaisir de découvrir l'invention des traditions. On a l'impression que le latin était là de tout temps et au départ. On a l'impression qu'au début aussi était non pas le verbe mais l'écrit. Eh bien ici, nous voyons arriver les compositions. Là où au départ, il y a une sorte d'oral assez lâche, de fait, pas très soutenu, remplacé au fur et à mesure par un examen de plus en plus sérieux.
Donc déjà l'oral qu'on installe aujourd'hui.
Ah oui, l'oral est le premier.
C'est intéressant aujourd'hui, compte tenu de l'émergence du souci d'un examen oral pour tous.
Oui, mais ceux qui cherchent les réformes actuelles le savent bien. D'ailleurs, l'oral n'est pas une nouveauté, ou plutôt c'est une forme de retour aux sources, sachant que les épreuves écrites sont beaucoup plus lourdes aussi, organisées. Et c'est une des raisons des réformes successives, lorsque va monter le flot des démographiques de ceux qui le passent, c'est qu'il faut quand même que cet examen puisse être fait dans des cadres économiques et budgétaires convenables. Or, l'oral est une excellente solution.
D'autre part, nous qui voyons qu'on va redonner, semble-t-il, au grec et au latin dans nos lycées une place plus honorable, il est notable que le ministre Victor Cousin, philosophe important de son temps, sous Louis-Philippe, appuie le choix d'une version latine. Il écrit « De toutes les épreuves écrites, la version latine est celle qui met le mieux en lumière la capacité réelle des candidats ». Une version latine témoigne suffisamment de cette connaissance solide de la langue latine sans laquelle il ne peut y avoir de fortes études, écoutez bien, de médecine et de jurisprudence. Ce qui explique que pendant longtemps, on a exigé des bacheliers scientifiques qu'ils fassent beaucoup de lettres. C'est aussi une page de français dans laquelle on peut reconnaître, c'est vrai que traduire, c'est d'abord connaître la langue dans laquelle on traduit. C'est aussi une page de français dans laquelle on peut reconnaître si le candidat sait écrire sa langue avec la pureté, la clarté et l'élégance qui répondent elles-mêmes d'une bonne culture intellectuelle. Une seule composition sera donc exigée, mais elle sera la condition indispensable d'admissibilité aux autres épreuves. Il y a du commentaire à faire.
Et un commentaire d'autant plus intéressant que avant Victor Cousin, la version latine n'occupe absolument pas cette place. Et que les premiers bacheliers sont plutôt examinés à l'oral sur des connaissances scientifiques que sur des connaissances qui seraient en français et en latin.
Ça, c'était Napoléon.
Absolument. Et il s'intéresse plus à des ingénieurs, si je puis dire, qui ne soient pas forcément d'une culture classique, que à avoir ces esprits bien faits, des humanités, le mot est lâché, ce sera l'objet de grands combats jusqu'à nos jours, hein, dans la réforme qui nous est proposée. Les humanités sont d'ailleurs en double place d'honneur, puisqu'elles figurent dans le socle des connaissances communes, qui s'appelle plus exactement le socle culturel commun, le socle de culture commune, dans lequel vous auriez un enseignement obligatoire d'humanité, notez bien, scientifique et numérique. Et au choix, il y aura aussi les humanités au sens beaucoup plus classique, qui sont les humanités littéraires et philosophiques. Donc, le mot d'humanité revient, il était déjà objet d'introduction en 1840.
C'est un beau mot, il faut dire.
Il a tout pour nous satisfaire, en effet. Oui.
Eh bien, pour restituer un instant l'ambiance de ce baccalauréat à l'époque de Louis-Philippe, écoutez cet extrait des mémoires de Frédéric Mistral, le poète, grand poète occitan, qui est lu ici par Emmanuel Barouillé en juillet 1998. Il passe son bac à Nîmes en 1847.
Je me préparais donc pour le voyage de Nîmes, où, en ce temps, se faisaient les bacheliers. Ma mère me plia deux chemises repassées avec mon habit des dimanches dans un mouchoir à carreaux, piqué de quatre épingles, bien proprement. Mon père me donna dans un petit sachet de toile 150 francs d'écu en me disant « Au moins prends garde de ne pas les perdre, ni de ne pas les gaspiller. » Quand j'arrivais à Nîmes, je rencontrai un gros d'écoliers des environs qui venaient comme moi passer leur baccalauréat. Ils étaient pour la plupart accompagnés de leurs parents, beaux messieurs et belles dames, avec les poches pleines de recommandations. Et tous se rengorgeaient et faisaient sonner le talon avec un petit air de dire « Nous sommes sûrs de notre affaire. » Moi, petit campagnard, je n'étais pas plus gros qu'un poids, car je connaissais absolument personne. Et tout mon recours, pauvre, était de dire à part quelques prières à Saint-Baudile, qui est le patron de Nîmes, pour qu'il mît dans le cœur des examinateurs un peu de bonté pour moi. On nous enferma à l'hôtel de ville, dans une grande salle nue, et là, un vieux professeur nous dicta d'un ton nasillard une version latine, après quoi, humant une prise, il nous dit « Messieurs, vous avez une heure pour traduire en français la dictée que je vous ai faite, maintenant, débrouillez-vous. » Et dardard, plein d'ardeur, nous nous mîmes à l'œuvre. À coups de dictionnaire, le grimoire latin fut épluché. Puis, à l'heure sonnante, notre vieux priseur de tabac ramassa les versions de tous et nous ouvrit la porte en disant « À demain ». Ce fut la première épreuve. Mémoires et récits, Frédéric Mistral, 1906.
C'est bien l'ambiance, Olivier Loupe, de ce temps-là, non ?
Ah, c'est une ambiance formidablement rendue ici par ce témoignage, par ces mémoires. Et on voit bien que déjà s'installe cette ambiance qui est celle de réviser pour passer un examen. On sait que, en fait, c'est à partir de 1830 que l'écrit apparaît, mais que c'est aussi dès cette époque-là qu'apparaissent des boîtes à bachots pour faire réviser. Et comme le dit Antoine Pro, le bachotage est aussi ancien que le bachot. Mais disons qu'il a été renforcé, c'est de façon assez paradoxale, par l'impartialité qu'on recherchait. C'est-à-dire que pour avoir une impartialité en fonction de tous les lycées qui pouvaient exister en France, on s'est mis à établir une liste de questions. Et à partir du moment où il y a la liste de questions, on pouvait donc réviser à l'avance ces listes de questions.
500
questions, absolument. Et donc, voir l'arrivée de boîtes à bachots, on disait des fours aussi, à bachots, où on faisait cuire, j'imagine, les candidats suffisamment pour qu'ils soient de bonne composition, le jour J, à leur H. Et ça donnait des publicités du type « Baccalauréat, cours de Monsieur Lespinasse, traite à forfait, payable après réception ». On payait donc la boîte à bachots après l'avoir obtenue.
Ce sont des établissements qui n'ont pas tout à fait disparu.
Ils existent et toutes nos villes le savent.
Il est notable que même si cet examen est d'abord un moyen de distinction, et là vous avez employé l'expression fameuse de Bourdieu, en dépit de cela, il y a déjà la préoccupation d'égaliser quelque peu les chances. Cela pourrait paraître contradictoire.
Oui, c'est égaliser l'échéance à l'intérieur d'un groupe bien défini, ça c'est un grand classique. Et pour le coup, ici, le ministère et les ministres successifs, pour peu qu'ils aient un petit peu un regard sur cet examen, bien s'en préoccupent, parce que l'impartialité reste quand même pour un examen une définition, une délimitation essentielle.
Alors comment faut-il inscrire dans cette histoire les réformes de Jules Ferry, les réformes majeures qu'il va introduire en scindant le bac en deux années et en développant les épreuves écrites, en particulier la composition française. Composition française, c'est le titre de ce si beau livre de Mona Ozouf que nous connaissons.
Oui, la composition française qui n'est pas réservée d'ailleurs qu'aux lycéens, puisqu'on la retrouve dès l'enseignement primaire. Alors, pour Jules Ferry, très clairement, le lycée doit rester un établissement qui appartient à une catégorie qui est la catégorie élevée de la société. Il n'y a pas d'idée, de volonté de démocratiser socialement le lycée. En revanche, on fait des réglages autour du baccalauréat. Ce sont des réglages qui d'ailleurs vont perdurer quasiment un siècle, hein, de 1874 à 1964. L'architecture du baccalauréat va rester la même. Ce sont toutes ces refondations républicaines auxquelles nous sommes parfois attachés, mais qui vont tenir tant que n'aura pas changé la notion de démocratisation autour du baccalauréat. Alors il s'agit de séparer en deux parties, et ces deux parties sont intéressantes parce qu'en fait la première partie, celle qui se passait dans l'équivalent de notre première actuellement, la classe de rhétorique, bien c'était celle-ci qui visait la première fonction du baccalauréat, au fond le certificat de fin d'études secondaires. Et c'est avec la seconde partie que l'on spécialisait vers l'université. Donc ce qui est à l'heure actuelle compliqué, c'est-à-dire presque une ambivalence entre ce baccalauréat qui est à la fois, je n'ose dire en même temps, d'un côté, le certificat de fin d'études secondaires, de l'autre côté, la spécialisation, ou en tout cas le premier grade universitaire, eh bien là, c'était résolu en deux ans. La première partie du baccalauréat de la classe de rhétorique validait la fin des études secondaires. La deuxième partie de la classe de philosophie était spécialisante.
À partir de 1890, il y a affirmation de ce baccalauréat unique, mais il y a une modulation en dernière année, et cela est à l'origine de ces séries, comme on a dit plus récemment, qui ont perduré longtemps, jusqu'aujourd'hui à vrai dire.
Oui, c'est à l'origine des séries, même si ça n'est pas encore clairement identifié comme tel. Il y a la nécessité d'introduire, ou plutôt d'agréger à l'enseignement qui était très connu, des lycées dans lesquels on passait un baccalauréat S-lettres ou un baccalauréat S-sciences, une nouvelle catégorie qui vient de l'enseignement qui au départ s'appelle spécial, puis qui va s'appeler moderne. Et donc on va être amené à créer un baccalauréat moderne, mais pour ensuite l'unifier en 1902, à l'issue d'une grande bataille, d'un grand débat, un des premiers grands débats autour du baccalauréat. Parce que si vous essayez de faire la jonction entre les baccalauréats venus de l'enseignement classique, qu'ils soient S-lettres ou S-sciences, et puis ce baccalauréat moderne, eh bien il faut se poser la question de ce qui doit dominer, du moderne ou du classique, de l'ancien ou du moderne.
C'était le A ou le C. On avait même créé une section qui s'appelait A prime, qui supposait susciter l'adhésion des meilleurs élèves qui faisaient à la fois des maths et des lettres.
C'est-à-dire qu'on recherche une fois de plus, à l'intérieur d'un outil commun, des éléments de spécialisation, donc de distinction si l'on veut, de sélection de fait.
Comme au 19e siècle.
Dès le départ.
Je note aussi, c'est une innovation importante vue d'aujourd'hui, l'institution d'un livret scolaire qui a, dit le décret 1890, donc pour but d'empêcher que le candidat ne soit victime d'un accident ou d'un trouble passager, d'une défaillance de mémoire. Désormais, l'élève saura qu'il sera jugé dans l'ensemble de son travail dans les classes supérieures, que le jury lui tiendra compte des bonnes notes qu'il aura obtenues, et si le livret impose au dévouement des examinateurs une tâche nouvelle en les éclairant mieux, il rend plus facile leur responsabilité morale. C'est assez contemporain ou je me trompe ?
C'est en tout cas montrer que le contrôle continu n'est pas quelque chose qui serait une invention du XXe siècle ou même de la deuxième partie du XXe siècle. Avec cette même interrogation, le but, c'est un examen, ça n'est pas un concours. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et selon les régimes, il s'agit bien non pas de séparer le bon grain de l'ivraie avec un pourcentage qui serait extrêmement réduit, mais au contraire d'essayer de valoriser l'accomplissement d'études. Et donc, dans ce qui est certificat de fin d'études secondaires, le contrôle continu, cette fois-ci vérifié sous la forme du livret, apparaît comme un élément évidemment tout aussi probant que l'exercice ponctuel sur une épreuve.
Mais avec déjà à l'époque, la critique du principe du livret en disant que le livret dans un établissement qui serait de moins bonne qualité risquerait d'être excellent, alors que c'est un auteur qui s'appelle Gebhardt, en 1900, dans le journal des débats, c'est la bourgeoisie fait de journal, qui s'exprime de la sorte, le bon livret doit primer les compositions mauvaises. Il le doit et ça l'inquiète. Quelle est la force de la classe, le niveau des études dans la classe, qui nous fournira le diapason normal à l'aide duquel nous déciderons que le candidat classé en cette maison parmi les trois premiers pour la version latine a juste la valeur du candidat classé par exemple à Louis le Grand, déjà Louis le Grand, le 20e pour la même composition.
Combien ces propos ont de l'écho, effectivement. Combien nous sommes en face d'une question qui continue à se poser. D'une part, évaluer régulièrement, et après tout, c'est la récompense du travail quotidien, ce qu'un élève fait, et d'autre part, ne pas survaloriser les effets de lycée par rapport aux autres lycées.
Alors, il faut que nous entendions un ou deux bacheliers notoires, Olivier Loub, afin de restituer ce qu'ils ont pu éprouver avec souvent une distance critique. Écoutez l'ironie ravageuse de Romain Gary, qui s'exprime le 1er janvier 1953. Il est interviewé par Maurice Toesca sur l'antenne de la RTF Nice-Côte d'Azur.
Je ne suis pas revenu à Nice depuis longtemps. Il paraît que les élèves continuent à passer quelquefois leur bachot, à échouer aussi brillamment, comme ça m'était arrivé à la première partie. Je dois dire que j'ai échoué très brillamment, très brillamment. On a beaucoup parlé de mon échec dans certains milieux de lycéens. Et j'avais été pratiquement collé en chimie, je me souviens. J'étais interrogé par un professeur très impressionnant, une barbe blanche, un dentier aussi, autant que je me souvienne, qui claquait dans sa bouche, à moins qu'il avait peut-être un autre appareil avec le professeur des sciences, on ne sait jamais. Et il m'a regardé quand je suis arrivé, et puis il m'a dit « Parlez-moi du plâtre !» Je l'ai regardé « Du plâtre ?»« Oui, du plâtre, » me dit-il. Alors j'ai réfléchi, je fais un effort puissant, et je lui dis « Monsieur le professeur, le plâtre sert à fabriquer les murs !» Il m'a regardé « C'est tout ?» Comment c'est tout, monsieur le professeur? C'est très important, ça, les murs. 90% de notre civilisation, ce sont des murs. Si vous supprimez les murs, qu'est-ce qui reste? Rien. Zéro, me dit-il. Je dis oui, c'est ça, il reste zéro. Il me dit non, non, vous avez zéro, allez vous asseoir. On ne s'est pas compris. C'est ce qu'on appelle sans doute le conflit des générations. Je suis allé m'asseoir, je suis revenu penaud à la maison, et j'ai raconté l'histoire à ma mère convaincue que j'étais collé. Et ma mère a pris sa canne, elle circulait toujours avec sa canne, elle a pris sa canne, une très forte, grosse canne, et elle a dit « je vais voir les professeurs ». Elle est allée au lycée, je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais j'ai été admis. Elle est revenue un peu émue, les cheveux un peu en désordre, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre ma mère et les professeurs, mais j'ai été pris, j'ai réussi le bachot. Un de mes rêves constants, que j'ai échoué au baccalauréat. C'est un rêve d'autant plus curieux que j'ai vraiment échoué les 4 ou 5 premières fois. Enfin, j'ai échoué au début. Et alors, il m'arrive encore de me réveiller au milieu de la nuit, couvert de sueur froide, à l'idée de me représenter en octobre. Et alors, ce rêve, comme je suis à New York en ce moment, vous comprenez, s'il fallait encore payer le voyage, vous savez, c'est $500 maintenant pour aller en France, pour aller payer, passer son bachot, c'est effrayant. Alors tout ça, la nuit, le prix du passage, le prix du bateau, le baccalauréat à repasser en octobre, ça fait, c'est quelquefois, je dois dire que je situe ce rêve parmi mes cauchemars les plus pénibles. Au fond, vous savez, on devrait me donner une espèce de papier que j'afficherais sur moi en disant « L'élève Romain Gary est à tout jamais dispensé du baccalauréat, de passer le baccalauréat. » C'est une hantise terrible dans mon existence.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Hantise terrible, le bac comme élément onirique dans les sommeils des jeunes Françaises, des jeunes Français. C'est un sujet que nous ne pourrons pas épuiser ce matin, Olivier Loub.
Je ne crois pas, mais quel témoignage formidable de Romain Gary, comment il nous fait revivre, à sa façon bien sûr, l'ambiance qui pouvait présider dans les familles, à ce qu'était ce rite de passage. On voit le rôle de sa mère, et nous savons, par le biais d'archives, j'ai en tête une archive du lycée Pierre de Fermat de Toulouse, lycée de garçons de Toulouse.
Toulouse où vous enseignez.
Où j'enseigne, et où le proviseur, avant la guerre de 14, se plaint des parents d'élèves, disant qu'ils autorisent en juin toutes les jeunes pousses, les jeunes terminales, à ne plus venir en cours. Ils ne sont plus là à partir de la fin du mois de mai pour réviser chez eux, peut-être avec des boîtes à bac ou avec des répétiteurs personnels. Et le proviseur se plaint à son recteur, lui disant bon, « Écoutez, j'ai renoncé car tous se tiennent la main et que les parents font les mots d'excuses pour leurs enfants qui ne viennent pas en cours et qui préfèrent réviser leur bachot. » Bachotage, bien entendu. Ici, on voit l'intervention de la mère de Romain Gary.
Les parents d'élèves et leur rôle.
Le rôle est considérable.
Tous n'ont pas une canne comme elle.
Tous n'ont pas la même canne qu'elle, mais tous essaient de faire que leur rejeton passe, évidemment, avec les honneurs, cet examen de passage, qui est aussi un rite familial, dans les milieux bourgeois, hein, avoir ou ne pas avoir le baccalauréat, bien sûr.
Dès cette fin du 19e siècle, au moment où le bac prend du côté de la bourgeoisie l'importance que vous rappelez, on voit naître des oppositions qui peuvent se retrouver longtemps après. Je pense à celle d'Ernest Lavisse, le grand historien que vous connaissez si bien, Olivier Loub, qui, dans un article retentissant de la Revue de Paris, montait à l'assaut du baccalauréat en décembre 98 en proposant de le remplacer par une attestation d'études. On y revient toujours. Délivrée par le Conseil des professeurs. Et il disait que ce système pourrait être étendu aux maisons libres qui sollicitent une inspection de l'État, maison libre, c'est-à-dire les écoles privées. Ceux qui ne sollicitent pas, c'est déjà la distinction qu'on connaît aujourd'hui entre les écoles sous contrat ou celles qui ne le sont pas. Eh bien, il proposait que cette attestation domine et ce n'était pas un sésame pour entrer à l'université. Il ajoutait qu'il y avait trois inconvénients majeurs, parce que le baccalauréat encourageait trois mauvaises dispositions, disait Lavisse, de notre caractère national, recherche de distinction vaine, hein, les décorations, recherche d'un privilège, c'est, espérons-le, le contraire d'aujourd'hui, recherche de la vie, écoutez bien, édulcorante, émolliante, des fonctions paisibles, entendez, d'être fonctionnaire.
Oui, alors Ernest Lavisse est un réformateur de l'enseignement. On le connaît bien pour l'agrégation, on le connaît bien pour tous ses travaux, justement, de réforme de l'université. Et c'est justement parce qu'il réforme l'université qu'il pense au baccalauréat. Il a un regard, là, d'universitaire. À quoi peut bien servir le baccalauréat pour l'université? S'il ne permet pas de dégager des futurs étudiants de qualité, alors il n'a plus qu'une fonction sociale ou celle d'être un certificat de fin d'études secondaires. Donc, il faut lui donner une identité propre, mais unique, celle d'être ce certificat de fin d'études secondaires. Et à ce moment-là, effectivement, le privé comme le public peuvent être, sous surveillance de l'État, bien entendu, susceptibles de décerner ce grade et non pas à l'université, gardant le monopole de la collation d'un grade qui, au fond, ne lui sert à rien.
Il est notable que Lavisse ajoutait une critique violente de la bureaucratie du baccalauréat, en marquant que c'était une machinerie effrayante que celle d'une épreuve qui était nationale.
Il voilà disait, bien une très longue critique.
Et il disait, une session est annoncée qui va s'ouvrir dans toutes les académies de France. Des milliers de personnes sont occupées aux opérations préparatoires. Le père de famille se procure l'extrait de naissance de son fils et une feuille de papier timbré. Sur cette feuille, le candidat demande à l'autorité académique la permission de se faire examiner. Le père certifie que son fils est autorisé à présenter par lui cette requête. Mais les administrations sont prudentes, la nôtre prévoit la possibilité même de l'impossible. Bref, il faut que la signature du père soit dûment légalisée. J'en passe et des meilleurs.
Oui, c'est une critique de la bureaucratie ou du poids, voire du coût. Il ne parle pas de coût encore, que cet examen procure. Mais il faut bien voir que c'est une problématique qui changera avec la démocratisation sociale. Parce que ce qui peut être un défaut, s'il s'agit juste de reconnaître une catégorie socialement distinguée, peut devenir une qualité sur l'ensemble du territoire d'appliquer des règles républicaines, une indivisible. La problématique changera avec la nature sociale du baccalauréat.
Mais Lavisse, à cet égard, peut apparaître comme prémonitoire.
Prémonitoire de critiques qui sont toujours faites envers le bac et qui concernent cette fois-ci plutôt son coût, mais le coût venant de la gestion effectivement administrative lourde de cet examen.
Alors il faut que nous évoquions maintenant, Olivier Loub, la question de l'équilibre des sexes, je veux dire, ou plutôt le déséquilibre des sexes, puisque le baccalauréat est pendant très longtemps exclusivement masculin, et que par là reflétant évidemment l'état d'une société, des préjugés, des stéréotypes, etc.
Oui, le baccalauréat est resté jusqu'en 1924 un diplôme exclusivement masculin comme diplôme, ce qui n'empêchait pas des femmes de le passer. Ça peut paraître pour nous extrêmement étrange, mais la première bachelière française, Julie-Victoire Daubier, le passe à Lyon en 1861. Elle le passe auprès de l'Université de Lyon. Elle s'est inscrite là parce qu'elle sait, par ces milieux saint-simoniens auxquels elle appartient, qu'il y aura une oreille favorable à l'inscription d'une femme, mais elle le fait, comment dire ça là, en passant un diplôme masculin. C'est-à-dire c'est une femme qui passe un diplôme masculin, en quelque sorte. D'ailleurs, elle sera aussi la première licenciée à S-Lettres quelques années plus tard.
Il faut la saluer comme nous saluons Jeanne Chauvin, la première avocate au début du XXe siècle.
Absolument, d'autant que cette Julie-Victoire Daubier a un parcours très intéressant. Elle est issue d'une petite bourgeoisie catholique. Elle va pour le latin se faire aider de son frère, qui a la particularité remarquable d'être un prêtre. Et ainsi, elle assiste aussi au cours de Geoffroy Saint-Hilaire au Muséum de Paris. Donc c'est quelqu'un qui a un souci très fort de culture, qui a d'ailleurs un certificat d'enseignante. Donc et qui sera journaliste économique reconnue. Elle passe d'ailleurs tardivement, elle a 35 ans, 34, 35 ans. Et c'est une pionnière, mais une pionnière d'exception. Voilà, c'est typiquement l'exception qui confirme la règle. Et jusqu'à 1924... Alors que les lycées de jeunes filles sont créés en 1880 par la loi de Camille C, jusqu'en 1924, donc pendant 44 ans, les jeunes filles avaient un baccalauréat particulier qui était celui de l'enseignement primaire, qui est le brevet supérieur. Jusqu'en 1924, les lycées de jeunes filles préparent au brevet supérieur, comme les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, comme aussi d'ailleurs les écoles primaires supérieures. Ce BS, ce brevet supérieur, dont ma grand-mère était si fière, eh bien c'est quelque chose qui disparut pour les lycées de jeunes filles en 1924. Elles pouvaient désormais passer le baccalauréat et qui disparut tout court en 1945.
Eh bien écoutons ce témoignage d'une inspectrice de l'Académie de Paris, qui était une des premières bachelières. Et qui s'appelait Odette Brunschwick. C'est un extrait de l'émission qui s'appelait La classe intemporelle. On est le 18 décembre 1951 et c'est l'ineffable Paul Guth qui l'interroge.
Quand êtes-vous entrée au lycée Fénelon ?
Eh bien, dans des temps très lointains, je suis déjà une vieille dame.
Non,
je
vous
suis
entrée. Juste de mes prérogatives de professeur pour protester.
En tout cas, je suis entrée au lycée Fénelon en octobre 1911.
De quel professeur avez-vous gardé le souvenir le plus ému ?
J'ai gardé un bon souvenir de tous mes professeurs, surtout de mes professeurs de lettres, d'histoire et d'anglais. Moins de mes professeurs de mathématiques, parce que je n'étais pas une bonne élève en mathématiques. D'ailleurs, ceci me paraît très important à signaler, tous nos professeurs nous cultivaient. Ils ne préparaient pas exclusivement un programme d'examen, ils avaient avant tout le souci d'une très large culture.
Cependant, quel examen prépariez-vous ?
Le baccalauréat, que nous étions quatre seulement à préparer, et presque en cachette et au grand scandale de nos professeurs.
Et pourquoi c'était un déshonneur ?
C'était pas un déshonneur, mais c'était, comment dirais-je, garçonnier, c'était choquant. Enfin, on préparait le diplôme de fin d'études secondaires, qui était d'ailleurs un examen fort bien conçu. Très intelligent et dont je regrette la disparition à beaucoup d'égards. Je ne crois pas être la seule de cette opinion. Alors, on préparait le diplôme, c'était l'examen essentiel, c'était l'examen de clôture des années de lycée, et il était de mauvais goût de préparer le baccalauréat. Mais enfin, on nous tolérait, on nous tolérait.
Il y avait là, effectivement, une sorte de pesanteur sociale qu'évoque Odette Brunschwick.
Oui, qui reflète le fait simple que les femmes n'étaient pas destinées à occuper des emplois professionnels de façon massive, évidemment, ou de façon, disons, naturelle, pour le dire autrement.
À l'exception des employés des grands magasins ou des demoiselles du téléphone, mais pour cela, il était inutile d'avoir le bachot.
Oui, et même pour les catégories intellectuelles qui étaient les institutrices ou que pouvaient être les professeurs par la suite, jusqu'à 1924 en tout cas.
Les deux courants distincts, pour l'essentiel, il y a quelques passerelles, qu'a institué ou qu'a confirmé Jules Ferry, entre la branche bourgeoise et la branche populaire, se retrouvent différemment, se recouvrent quelque peu dans l'opposition entre les hommes et les femmes.
On peut dire cela, on peut dire en tout cas que l'enseignement des jeunes filles a été promu par l'enseignement plus populaire, qu'il a été en contiguïté de programmes et de diplômes avec celui de l'enseignement populaire qui à l'époque est celui du tiers-état, pas du prolétariat. On parle de 95% de la population malgré tout, puisque dans les lycées on a entre 3 et 5% des classes d'âge.
Alors Olivier Loup, pendant toute cette durée des premières décennies du XXe siècle, continue à survivre la critique des examinateurs. Quel type de critères aura-t-on ? On voyait tout à l'heure le personnage de Romain Gary avec le plâtre sur lequel l'interrogeait son examinateur. C'est une critique assez générale. Je vois Georges Huysmans, qui a été directeur des Beaux-Arts et dont le fils ensuite a fait une carrière d'éducateur. Georges Huysmans qui critiquait en 1931 les examinateurs. Il disait « il y a trois catégories ». L'examinateur bourru et violent, terrorisant les candidats, type social qui heureusement tente à disparaître, on est en 31. L'examinateur qui s'écoute parler, ça a toujours été très fréquent, d'après nos expériences, l'examinateur qui s'écoute parler et discourt pendant 10 minutes devant son candidat ahuri, celui-là est parfaitement inoffensif, puisqu'il finit par marquer une bonne note à celui qui aurait dû s'exprimer comme lui-même s'est exprimé. Mais la plus redoutable espèce d'examinateur, elle est fort rare heureusement, réunit quelques correcteurs, ignorant tout de la valeur moyenne des élèves qui se complaisent à poser des questions ahurissantes, dignes de faire échouer au baccalauréat les historiens les plus connus, les géographes les plus en renom. Fin de citation.
Ah, l'examinateur. On est dans le cadre d'un rite de passage. Donc forcément, ceux qui président au rite de passage doivent permettre aux examinés de mériter de vieillir. Alors pour mériter de vieillir, il faut passer par des épreuves. Et l'examinateur est le grand dispensateur de ces épreuves. Bon, on trouve sous la plume de Georges Huysmans, qui sera ensuite un des principaux hommes accompagnant les réformes de Jean Zay, cette remarque sur les trois types d'examinateurs. Et vous remarquez combien la composition française, chez ce parfait élève de l'enseignement secondaire et supérieur ressurgit, il est forcément dans une typologie en trois temps.
Symétriquement, il faut s'interroger sur l'évolution des sciences dites exactes, en particulier des mathématiques, pendant toute cette période. Au fil du 19e siècle, l'enseignement des lettres diminue au profit des mathématiques. Il y a l'idée, dès ce moment-là, que les mathématiques peuvent servir davantage des gens d'extraction plus modeste, comme on disait. C'est une idée qui perdure et qu'on va peut-être trouver dans le rapport de Cédric Villani que lui a demandé le ministre de l'Éducation nationale.
Je ne sais pas si c'est l'idée majeure au 19e siècle, si ce n'est pas autant, au moins autant, le fait que la France est un pays d'ingénieurs, pour lequel, par exemple, la première des grandes écoles reste celle des mines au 18e siècle. Alors là, il y a une tradition, une culture dans l'enseignement français de valorisation de cette figure de l'ingénieur, du bâtisseur, de l'homme des mines, qui est relié aussi, n'oublions pas que cela provient de Napoléon Bonaparte, à la figure du militaire de génie, si je puis le dire comme ça. Donc là, il y a une tradition française de valorisation des mathématiques qui n'est pas encore celle de la démocratisation sociale par l'absence de capital culturel, celle qui sera celle des années 1960, plus tôt, je dirais. Donc il me semble qu'il y a eu la conjonction entre les deux. D'une part, une culture valorisant l'ingénieur, le technicien, le militaire, bâtisseur. Et puis celle qui, dans les années 60, on verra ce que M. Villani en dit, met en avant le fait que les mathématiques sont quand même la matière la moins susceptible de permettre de déployer un capital familial, culturel, donc familial et héréditaire en quelque sorte.
L'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale est celle du moment décisif où on va changer de situation et où tout à coup, en termes numériques, tout va être autre. Déjà, en 1945, Pierre Auger, qui était directeur de l'enseignement supérieur auprès de Capitan, ministre de l'Éducation nationale, avait envisagé une propédeutique de 2 ans qui aurait séparé le baccalauréat de l'université au sens propre et qui aurait permis, accueillant tout le monde sans examen et sans sélection, de procéder de fait à une sélection admissible par tous. Et puis, De Gaulle est tombé en 1946 et l'idée avec. Or, peut-être c'est un système qui aurait été adapté au changement de nombre prodigieux que l'on a connu dans la seconde moitié du XXe siècle.
Oui, ce qui change tout pour le baccalauréat et ce à quoi il faut s'adapter, et ce qui cause tous ces trains de réforme, c'est un changement du flot de ceux qui vont se mettre à passer le baccalauréat. Alors ce changement, cette démocratisation du baccalauréat, elle se nourrit des réformes des années 30, même lorsqu'elles échouent, celle de Janzé en 1937, prévoyait déjà, par exemple, le fait que les instituteurs et institutrices aient le bachot afin de pouvoir enseigner.
Janzé, ministre du Fonds populaire, dont vous avez écrit brillamment la biographie.
Mais effectivement, Janzé est le réformateur qui échoue, parce que sa loi ne vient pas en discussion, mais qui pose pour la première fois l'idée que l'enseignement primaire peut avoir des maîtres validés par le bachot auparavant, étant de l'enseignement secondaire pur. Et c'est une idée qui va s'imposer, mais très vite. Elle s'impose dès 1945, alors même qu'on rétablit les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices qui avaient été supprimés en 1941 sous la dictature de Vichy, rétablissant les écoles normales, malgré tout, on demande aux instituteurs et institutrices d'avoir le baccalauréat désormais. Ça signifie bien la victoire de cet examen du secondaire sur le brevet supérieur, qui d'ailleurs disparaît totalement dès 1945, corps et âme. À partir de là, c'est un signal comme un autre, mais c'est un signal qui marque bien que désormais, ce qui va compter pour la République et pour les Républicains, c'est d'organiser non pas simplement la démocratisation politique de l'âge de Jules Ferry, mais de basculer vers une démocratisation sociale par l'enseignement. Et là, le baccalauréat va garder son nom, mais va changer de nature. De ce qui était un élément de distinction jusqu'à 1945, il devient désormais un élément d'intégration démocratique aux catégories. Et on commence à parler d'ascenseur social à partir de cette période-là. Mais c'est quelque chose qui est un tournant fondamental.
Le baccalauréat restant un rite de passage, simplement pour beaucoup plus de gens, ce qui était un peu le certificat d'études, effectivement, auparavant.
Oui, et on voit bien que lorsque le certificat d'études disparaît en 1989, cela ne sollicite les remarques de personne. Il disparaît dans la plus grande discrétion. C'est parce qu'il a déjà depuis une voire deux générations perdu sa fonction de sanctificat national, comme aime à le dire Patrick Cabanel. Et ce changement de valeur pour le baccalauréat, ce devenant le rite de passage national pour tous, là où auparavant il ne l'était que pour quelques-uns, va rendre les réformes encore plus nécessaires parce que le flot montant est désormais accentué, particulièrement dans les années 1960.
Reste la fameuse question du niveau qui baisserait. Il est intéressant d'observer que il a toujours baissé.
Oui, Platon, le premier, dit-on, a fait de la baisse du niveau un élément fort. Par ailleurs, les cultures changent, bien sûr, les niveaux évoluent.
Ça n'empêche pas que les critères de définition de ce qu'est un niveau évoluent, mais j'observe que dès les années 1880, il y avait des critiques sévères sur, par exemple, l'orthographe. Il y a toujours dans les rapports, les examinateurs se donnent quelques satisfactions en le faisant parmi leurs chagrins. C'est un mélange. Il y a toujours l'évocation d'ignorance totale ou de perles absurdes. Je vois qu'en 1880, à propos du baccalauréat, le doyen de la faculté des lettres de Clermont, rappelons que ce sont les universitaires qui font passer le baccalauréat, écrit « Nous voudrions simplement rappeler aux candidats que la faculté désirait ne plus avoir à corriger des fautes d'orthographe aussi nombreuses que stupéfiantes. Elle désire aussi que les aspirants au baccalauréat ne fassent pas prononcer par Bossuet ses oraisons funèbres à la cour de Henri IV, ni prêcher la première croisade par Claude Bernard. »
Vieux cantilène.
Les candidats, dit-on en 1929, n'ont ni orthographe, ni vocabulaire exact et varié, ni connaissances grammaticales, ni analyse logique, ni méthode d'exposition écrite ou orale. N'en jetez plus.
N'en jetons plus. C'est ce qui aussi pousse beaucoup de gouvernements ou de ministres à piloter l'enseignement secondaire par le baccalauréat. C'est-à-dire que les épreuves permettraient d'amener en 3 ans d'études à un niveau défini les candidats, et donc ça, c'est resté en revanche quelque chose de fondamental. Quelles exigences mettons au baccalauréat pour pouvoir guider ce qui sera fait en classe dans les 3 années préalables?
Oui, vous avez compris que cette évocation un peu ironique des déplorations antérieures ne signifiait pas qu'il n'y avait pas à mes yeux des raisons d'être rigoureux aujourd'hui. Et puis il y a cette permanence qui est le rite de passage, celui qu'évoque par exemple l'historienne renommée qui est Judith Blanchon dans un article que je retrouvais de l'Histoire de juin 1978 où elle évoque le monôme. Le monôme, ça a existé longtemps.
Ah oui, ces grandes manifestations d'opposition, ou en tout cas ces cortèges pendant lesquels on inversait justement les rôles, on est complètement dans le carnaval d'un rite de passage. Oui, quelle historienne.
Et le quartier latin était parfois ravagé. On brisait les chaises du café Le Capoulade au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel.
Et comme toutes ces violences qui sont exercées par des gens de bonne famille, ils sont intégrés, bien sûr, au rite par une société qui les voit d'un œil bon enfant, là où, évidemment, les incivilités abondent.
Alors, je voudrais que nous terminions cette conversation, Olivier Loube, par une citation, par une archive qui remonte à avril 1970. C'est un propos de Georges Pompidou qui tient un discours à Albi, qui parle de notre sujet, le bac, d'une manière que je vous demanderai ensuite de commenter.
Qu'est-ce qu'on veut faire du bachot? Ou bien c'est un examen d'enseignement supérieur, un premier titre de l'enseignement supérieur, et qui ouvre toutes grandes les portes des facultés, qui donne un droit à poursuivre les études. Et alors, il faut évidemment qu'il soit difficile, il faut évidemment qu'il institue une sélection, je n'ai pas peur du mot. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser aller vers des études prolongées des gens qui n'ont pas subi la préformation indispensable, nécessaire. Après tout, on peut se faire coller au bachot et on peut s'y représenter. Et puis on peut ne pas avoir son bachot et réussir très brillamment dans l'existence. Il n'y a pas que le baccalauréat dans la vie et cette espèce de hantise et de respect général en France pour le baccalauréat est probablement absurde. Si par contre on considère que l'enseignement supérieur doit faire lui-même et assurer lui-même les règles de son recrutement, eh bien alors le baccalauréat peut devenir un simple certificat certifiant que vous avez fait convenablement, poursuivi convenablement des études secondaires sans plus, mais que ça ne vous dirige pas obligatoirement faire des études prolongées ou longues, cela peut vous donner simplement un certificat de ce que vous étiez et de ce que vous saviez à un certain moment.
Avril 1970, Georges Pompidou est président de la République. Cette distinction entre les deux faces possibles du baccalauréat, vous paraît, Olivier Loube, valoir encore aujourd'hui?
C'est d'une très grande synthèse en tout cas, et il exprime un choix. Pour Pompidou, en effet, il est très clair qu'il faut que le baccalauréat soit un certificat de l'enseignement secondaire et que les universités puissent sélectionner. Il le dit, il l'affirme, il assume les flots montants qui se dirigent vers elle. Il se situe à une période en 1970 qui est celle qui a vu pendant toutes les années 60 une remise à plat de ce baccalauréat. Or, c'est celle-ci qui, à l'heure actuelle, est questionnée. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes, avec les réformes proposées par le ministre actuel, dans une mouture nouvelle ou une volonté de remettre à plat à notre tour, un demi-siècle plus tard quasiment, ce qui avait été fondé par des gens comme Edgar Faure. Puisqu'en 1969, c'est Edgar Faure, par exemple, qui vient ponctuer cet effort.
Juste après mai 68.
Juste après mai 68, mais les réformes précèdent. Et puis, il y a eu des ministres comme Fouché qui ont posé des éléments qui ont été traduits, au fond, par le baccalauréat qui a encaissé la montée en puissance que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on est passé, grosso modo, de 10% au début des années 60 à deux tiers d'une classe d'âge qui obtient ce baccalauréat.
Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, avait fixé le niveau à 80% d'une classe d'âge.
Oui, c'est le gouvernement de Laurent Fabius qui, avec Jean-Pierre Chevènement comme ministre de l'Éducation nationale, fixe cet horizon en 1985, en créant en même temps le baccalauréat professionnel, qui va être le troisième des grands baccalauréats, puisque celui qui est le baccalauréat technique avait été créé en 1965, dans cet effort que je signalais. Dans les années 80, se pose pour la France, face aux puissances européennes voisines, l'idée qu'il faut fournir à la nation un niveau qui soit un niveau supérieur de formation des jeunes têtes blondes qui doivent désormais être et présider au fonctionnement de l'économie. Alors là, en 85, on prend cette décision qui a accru effectivement les flots montants de bacheliers jusqu'à nos jours. Pour autant, on n'a pas résolu la question que Pompidou posait. Et cette question est toujours pendante. Que doit être le baccalauréat? Comment sortir de cette ambiguïté qui est celle d'être à la fois un certificat de fin d'études secondaires et d'être le premier diplôme universitaire?
Alors comment situez-vous à l'intérieur de cette problématique les réformes que ces jours-ci annonce le ministre Blanquer?
Bien, ces réformes sont motivées par une situation qui est à tout le moins paradoxale. C'est-à-dire que pour ce qui est de la sélection après le baccalauréat, à l'heure actuelle, on ne tient pas compte de lui. Si on regarde ce qui était APB auparavant et Parcoursup désormais, vous avez des... c'est le bulletin scolaire qui sert de base, et c'est les évaluations des professeurs, puisqu'on arrête ça à la fin du second trimestre.
Le livret du 19e siècle.
Complètement. On ne prend pas en compte le baccalauréat pour les filières sélectives, comme par exemple les classes préparatoires, mais pas elles seules. Donc, le baccalauréat ne joue plus le rôle de sélection pour l'université, sauf pour les filières les moins valorisées de l'université, ou disons les plus massifiées. En ce sens-là, on est bien placé, et c'était pas le cas en 1970, devant une question nouvelle. Que fait-on d'un baccalauréat qui est devenu de facto le certificat de fin d'études, tout en n'ayant pas cessé d'être le premier grade pour les filières de l'université qui sont non sélectives? Et ça, effectivement, c'est une question à réfléchir collectivement.
Avec le risque que l'on retrouve Jules Vallès, le Jules Vallès du bachelier, dans les années 1880, qui avait dédié son livre, il avait échoué finalement au bachot, à tous ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. On n'en est pas là, mais disons qu'en tout cas, l'équilibre n'est pas encore trouvé.
Non, parce qu'on est encore dans cette double nature, mais une double nature qui est quand même de moins en moins socialement justifiable, hein, quand même. Parce que cette double nature trie, et de façon assez vigoureuse, sans s'occuper du baccalauréat.
Le souci exprimé est précisément de réduire, me semble-t-il, la différence entre les filières à sélection et les autres, et de se préoccuper de ceux qui, au bout d'un an, quittent l'université et sont, comment dire, jetés sur le pavé, et dans leur amertume, leur chagrin et parfois leur dénuement.
Oui, cette question du baccalauréat, elle laisse de côté effectivement ce qui se produit après, mais elle laisse aussi parfois de côté ce qui se produit avant. On a plus de 100 000, parfois c'est 150 000 élèves qui sont sans diplôme du tout. On ne parle même pas de baccalauréat. Donc la démocratisation par le baccalauréat, c'est quelque chose qui est très résistible lorsqu'on regarde le système en lui-même. Pour piloter le lycée, pour réformer le lycée, avec les inquiétudes de collègues sur les heures et sur les postes, le baccalauréat est un vrai pilote. Pour dire ce que sera la démocratisation, ben là, la réforme est autrement plus profonde.
Merci beaucoup, Olivier Loub. Vous avez publié en 2001 aux éditions Belin et récemment, tout récemment réédité, un livre précieux qui s'appelle « L'école, l'identité, la nation, histoire d'un entre-deux France », 1914-1940. Vous y évoquez bien sûr le baccalauréat.
Par le biais essentiellement du contact entre le primaire et le secondaire, mais par le biais aussi de cet entre-deux France où on voit passer de la distinction à la démocratisation le rôle du baccalauréat.
Voilà bien ce qui était le thème central de notre conversation sur le baccalauréat. Vous avez également donné une biographie de Jean Zay chez Armand Collin en 2012. Jean Zay figure dans l'histoire du baccalauréat.
Oui, il y figure à partir de ce que sont les instituteurs et les institutrices et leur sélection, plus exactement la vérification de leur niveau. En effet, je souhaite que le baccalauréat soit désormais la validation du niveau de ces enseignants du primaire.
Quand on parle d'histoire d'enseignement, il faut toujours rendre hommage à Antoine Pro,
absolument,
grand historien de ce secteur de l'histoire de France. Et il a publié chez Belin un recueil d'articles qu'il avait donné au monde de l'éducation. Regards historiques sur l'éducation en France, 19e, 20e siècle, 2007.
Formidable chronique qu'il faut absolument lire.
Eh bien, je suis sûr qu'on suivra votre recommandation. Et puis, ce grande histoire de l'enseignement en France, qui est un classique maintenant, de 1800 à 1967, paru chez Armand Collin. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, retrouver une bibliographie complète sur notre site avec les références et documents sonores utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Et comme j'ai un public très jeune, tous mes vœux vont vers ceux qui, dans quelques mois, vont passer le baccalauréat. Samedi prochain, nous parlerons du Larzac. Conflit archaïque ou conflit moderne? Je n'ai pas besoin d'insister sur la concordance des temps. Chacun l'imaginera aisément. Et je recevrai pour cela Pierre-Marie Terral. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, réalisée comme chaque samedi par Anne Kobilac, avec Alexandre Dang à la prise de son, lui aussi nous rejoint souvent, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Sandra Escamez pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.